Bonsoir, merci vraiment infiniment d'être tous là, d'avoir autant de vous être mobilisés pour venir à cette rencontre avec Gérard Grèveran, ce qui me fait vraiment très très plaisir. Alors quelques mots sur Gérard Grèveran, donc, qui est directeur de l'Alliance française de Nanjing en Chine. Pour situer Nanjing, c'est grosso modo à 4 heures de route de Shanghai, si je ne m'abuse. Voilà. Vous avez été professeur de lettres par le passé. Vous avez travaillé aussi à Amsterdam, à la Maison Descartes, Institut français des Pays-Bas, et à Izmir. De cet amour à la fois pour la Hollande et pour l'Asie, vous avez tiré ce premier roman, Le capitaine à l'heure des ponts tranquilles, dont je vais vous laisser évidemment la présentation. Mais tout d'abord, si vous deviez résumer ce roman en quelques mots, que diriez-vous ?
En fait, Le capitaine à l'heure des ponts tranquilles est le récit de la vie d'un marin de la marine marchande néerlandaise qui, par les obligations de sa profession, va être séparé de la femme qu'il aime pendant pratiquement les trois quarts de son existence, puisqu'en fait, il ne cesse par le jeu des rotations sur la ligne Amsterdam et Jakarta, il ne cesse en fait d'effectuer des allers-retours incessants, avec bien évidemment des temps de séjour à Jakarta que nécessite le déchargement et le déchargement d'un gros cargo de marchandises, mais ce ne sont toujours que des haltes, que des bribes d'existence, à tel point que quelquefois, lorsqu'il est en mer, il pense que tout ça est un peu une illusion. Et en fait, il est en proie à des sentiments qui sont apparemment peu courants dans la marine marchande, puisqu'il est éternellement amoureux, éternellement privé de celle qu'il aime.
Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment naît une histoire ? On se dit, est-ce qu'un jour on se lève un beau matin en disant, tiens, si j'écrivais un roman, quelle a été la genèse de ce roman pour vous ?
Je pense qu'à l'origine de tout travail d'écriture, il y a d'abord la volonté d'exprimer des choses insaisissables. Et en fait, tout ça pour moi est parti d'images souvent assez anciennes qui, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, sont toujours liées un peu au bateau. Je pensais à ça récemment, je me disais si je devais trouver une image qui puisse être la vraie origine. Je pense qu'il y a une origine en fait un peu autobiographique. Lorsque j'avais, je pense, 4 ou 5 ans, je suis allé au Havre avec mes parents parce que j'avais un cousin qui était maître d'hôtel à bord du paquebot France. Et j'ai eu l'occasion, à la tombée de la nuit, de voir un énorme cargo en cale sèche. Et vous imaginez ce choc dans la tête d'un enfant de 4 ou 5 ans de voir une espèce de gouffre avec cette espèce de bateau suspendu en l'air, suspendu dans le vide. Et puis, lorsque j'habitais en Normandie, et plus précisément lorsque mes enfants étaient petits, je prenais l'habitude, plutôt que de passer par les ponts, d'emprunter les bacs. Et en fait, ce que je trouve assez magique dans ces bacs et dans ces ferries, c'est que même si on ne va pas très loin, et que même si on traverse simplement la Seine, le Rhône, n'importe quel fleuve, le simple fait d'entendre la salle des machines, de respirer cette odeur de graisse, cette odeur d'huile chaude, en fait, tout au long du roman, Le capitaine à l'heure des ponts tranquilles, je dirais, c'est un roman dans lequel on a vraiment les mains dans le cambouis, quoi. C'est vraiment un roman qui sent la graisse, qui sent l'huile, on entend le ronron des moteurs, il y a même régulièrement des informations d'ordre technique sur la salle des machines, sur le compartiment des moteurs, sur le comportement de l'arbre d'hélice, par exemple, pendant des tempêtes. Mais c'est surtout des choses comme ça et sur lesquelles j'ai greffé, en fait, cette histoire de ce capitaine qui était éternellement écartelé entre deux mondes, entre deux continents, entre deux cultures. Et L'autre origine forte, c'est que, comme Caroline le disait à l'instant, j'ai effectivement vécu aux Pays-Bas. Je connaissais un peu les Pays-Bas avant d'y vivre, avant d'y travailler, mais l'environnement, le décor, le mode de vie, tout ce qui constitue la néerlandité, la néerlanditude, est quelque chose qui me touche particulièrement, cette omniprésence de l'eau, cette omniprésence des briques, ces paysages qui sont ceux qu'on voit souvent dans les tableaux des peintres du siècle d'or, ce plat pays avec l'horizon à distance, avec un ciel qui n'est jamais vide de nuages, des soleils qui sont jamais forts. Tout ça a donné une teinte un peu sucrée-salée, aigre-douce à mon roman. Je me suis vraiment épanoui dans cet imaginaire.
Alors, vous parliez en effet de ce souvenir d'enfance aussi, qui était un peu la matrice peut-être de cet attrait pour l'eau. Est-ce à dire que le romancier puise toujours dans l'enfance pour écrire? Vous pouvez peut-être évoquer un peu Barthes et le capitaine d'une bande dessinée célèbre.
Mon Barthes en question, mon capitaine, est en fait un je ne sais pas si c'est un frère jumeau, un descendant, un cousin, en tout cas quelqu'un qui évolue dans ce cercle des gens de mer. J'ai eu pendant mon enfance effectivement une forme de fascination pour le célèbre capitaine Haddock, dont d'ailleurs mon personnage porte le prénom. C'est vrai que j'ai toujours adoré, autant quand on parle des aventures de Tintin et Milou, tout le monde a tendance à porter Tintin au nu parce que il défend la veuve et l'orphelin, c'est un redresseur de tort, c'est le héros absolu, il n'a aucune relation sexuelle, il ne boit pas d'alcool, il ne fume pas, etc., etc., etc. Et Haddock, lui, il se laisse aller à son cerveau primitif, il jure, il dit des gros mots, il râle, il se met en colère, il montre toutes ses faiblesses, il a un grand cœur et il m'a toujours énormément plu. Donc quelque part, ce capitaine Haddock a déteint, d'ailleurs on retrouve Rackham le Rouge, il y a deux chapitres de piraterie, puisque je n'ai pas précisé tout à l'heure qu'en fait mon héros découvre par le hasard de son évolution dans le cercle des gens de mer d'Amsterdam, il rencontre un historien de la marine qui est également généalogiste, occasionnellement archéologue de la marine, et en fait il lui révèle qu'il a un ancêtre qui a existé 3 siècles plus tôt, qui était donc le commandant d'un navire corsaire qui escortait les lourdes frégates néerlandaises sur la dangereuse route aux épices lorsqu'elle faisait le trajet pour aller les navires en fait de la compagnie hollandaise des Indes orientales. Et en fait Barthes, ce capitaine du XXe siècle, met ses pas sans le savoir dans ceux de son ancêtre, puisque lui aussi effectue de manière incessante la traversée entre Amsterdam et Jakarta, la seule différence étant que au siècle d'or il fallait presque un an pour aller là-bas et qu'il fallait des points de ravitaillement, alors que maintenant ça se fait en quelques longues semaines, disons, en quelques... Voilà, oui.
Alors, nous avons commencé à parler des personnages. C'est peut-être l'occasion d'approfondir un petit peu la construction de vos héros, puisque vous venez de citer Rackham le Rouge. On pourra citer aussi Jacques Brel, puisque vous allez le dire, mais il y a une histoire d'amitié entre le héros Barthes et Jacques Brel. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous construisez ces personnages qui semblent traversés par une tension double. D'un côté, des personnages réels, Brel, qui vont du côté de la fiction, et de l'autre côté, des héros totalement imaginaires, fictifs, à commencer par Barthes, le capitaine lui-même, qui, eux, semblent aller vers quelque chose de plus proche de nous, si bien qu'on doute presque de leur existence véritable.
En fait, il y a deux lignes de force. Il y a une première ligne de force qui est la vraisemblance, et puis le fait de vouloir donner une épaisseur à ces personnages. De l'autre, il y a une espèce de jeu littéraire, d'amour de ma part, de très forte affection pour ce qu'on appelle la supercherie littéraire, la mécanique textuelle, le bricolage littéraire, c'est-à-dire fabriquer quelque chose avec des bouts. Je me considère un peu comme un marionnettiste qui tirerait des marionnettes dont on ne voit plus les fils, c'est-à-dire que les choses ont été fabriquées, mais la dernière couche du travail, finalement, c'est d'effacer tout ça. Donc, je prends beaucoup de plaisir à ça. Donc, en fait, parfois, on a affaire à des situations historiques, par exemple, qui sont des répliques, ou en tout cas qui sont fortement inspirés de choses ayant existé, mais il y a un démarquage total à un moment qui fait qu'il y a 60% de vrai, 40% d'imaginaire, ou 60% d'imaginaire et 30% de vérité historique. Et le fait que tout ça soit imbriqué, si vous lisez certains passages du roman, par exemple, si vous allez sur Wikipédia, vous allez retrouver les noms de certains de ces personnages. Pour les autres, vous ne trouverez rien et vous ne trouverez aucune trace de leur passage au Cap de Bonne-Espérance à la fin du XVIIe siècle, parce que tout ça est totalement inventé. pour, en ce qui concerne plus précisément Jacques Brel, que Caroline vient d'évoquer à l'instant, lorsque j'écrivais, ce roman pour moi est un peu une espèce de d'ode, d'hommage au Nord, avec je veux dire, l'exotisme du Nord. C'est vrai que dans la langue française, quand on emploie le mot exotique, on pense toujours au jus de mangue, on pense au cocotier, on pense au palmier, on pense aux plages de sable désespérément blanc de contrées très, très, très lointaines. Et pour moi, le Nord, les Pays-Bas en particulier, mais toute la Scandinavie d'une certaine manière, possède également un exotisme très fort. Et pour me mettre dans cet exotisme, j'ai beaucoup écouté forcément Brel, qui est à la base quelqu'un que j'adore pour la densité, la dramaturgie de ses textes. Et bien évidemment, Amsterdam, qui me revenait en plein visage pratiquement chaque semaine, parce qu'il n'y a pas de plus beau texte, de choses plus magistrales qui aient été écrites sur Amsterdam. Et à force d'écouter des chansons de Brel, je me suis dit qu'il pourrait très bien devenir un des personnages de mon roman. Donc en fait, ça a été chose faite assez rapidement dans le cours de la narration, puisqu'en fait, Brel, même quand il a commencé à devenir célèbre, se gardait toujours une place dans son calendrier pour se produire à Knokloszout, sur la côte belge, du côté d'Ostende. Et il se trouve que Bart van Kortrijk, donc le héros de mon roman, ce capitaine, vit non loin de cet endroit, puisqu'il est originaire de la Zeeland, donc la province du sud-ouest des Pays-Bas, qui est une province qui a été, au cours des siècles, très, 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 comment dire, dramatiquement malmenée par les éléments. Pas plus tard qu'en 1951, il y avait plusieurs milliers de morts suite à une espèce de gigantesque raz-de-marée. Et en fait, un jour où ce capitaine se rend à Knokloszout au cours de l'une de ses escales et qu'il sort avec ses cousines pour aller faire une balade à Knokloszout, il voit l'affiche du tour de chant de quelqu'un qu'il ne connaît pas encore, qui s'appelle Jacques Brel. Et il assiste à son récital, et aussitôt à la fin du récital, enfin il vient garer sa voiture derrière le casino, et il rencontre Brel qui fume nerveusement une cigarette avant d'entrer en scène. Ils échangent quelques mots, et à la fin de son récital, Brel demande à Jojo, son homme à tout faire, il lui dit: va voir sur le parking, il y a un type là tout à l'heure qui a garé une voiture décapotable, et si tu le vois, invite-le à boire un verre. Et en fait, ils commencent par boire un verre ensemble. Ils vont se revoir plusieurs fois au cours du roman, jusqu'à ce que finalement ils décident de partir ensemble pour ce long voyage que prévoyait Brel, après avoir successivement quitté la chanson, le cinéma, etc., etc., etc. Et en fait, ce n'est pas Brel lui-même qui tiendra la barre du voilier, mais c'est le capitaine Bart qui l'emmènera aux Marquises. Et ils resteront amis jusqu'à la mort de Brel.
Voilà, quand je parlais du mélange de la fiction et du monde réel, on est en plein dedans avec ce personnage-là. Puisqu'on parle de néerlanditude, est-ce que vous pourriez dire un mot sur la construction de cet univers aussi sonore ? Comment vous avez mis des mots de néerlandais pour donner un petit peu cette épaisseur du Nord ?
Pour moi, les mots sont vraiment comme les... Enfin, c'est une banalité de le dire, mais c'est vrai que c'est... Je pense que chaque peintre, en fonction du sujet qu'il a décidé de peindre, et en fonction des techniques également, est-ce que c'est de la gouache, est-ce que c'est de l'huile, est-ce que c'est de l'aquarelle, on construit d'abord sa palette. Et c'est vrai que pour moi, les mots sont des ingrédients, les mots sont des déclencheurs, les mots sont des inducteurs. Si déjà on est dans une espèce de musicalité, si déjà on est dans une espèce d'univers, je pense que la mayonnaise prend mieux et qu'on emmène... En fait, je me considère un peu comme ce livre est également un livre de voyage, mais pas uniquement, mais je me considère effectivement un peu comme un guide. Et le guide vous présente des lieux, et il vous présente ces lieux aussi d'après leur nom. Monsieur parlait tout à l'heure d'Italie. C'est vrai que dès qu'on arrive en Italie, la simple musicalité de la langue fait que ça y est, on est déjà tout de suite sous un sous d'autres latitudes, on est comme une éponge qui s'ouvre à une culture d'abord par la langue, soit parce qu'on ne la comprend pas, soit parce que on la trouve gracieuse, ou au contraire on la trouve un peu rébarbative, ou soit parce que tout de suite on fait l'effort de s'accaparer le monde à travers les mots d'abord.
Puisque nous parlions de palette et de pinceau, continuons sur cet aspect des choses et racontez-nous comment vous avez construit vos lieux comme des personnages. Donc on a déjà évoqué Amsterdam, les Marquises, il y a aussi l'Afrique du Sud et Jakarta.
Oui, alors effectivement, on en revient toujours un peu à cette dimension de supercherie, c'est-à-dire avoir l'air. Il y a des lieux que je décris, que j'ai vus 100 fois, 1000 fois, et pour lesquels je fouille. Et j'aime bien qu'on ait l'impression que j'ai visité le monde entier en restant dans mon fauteuil. Dans ce roman, il y a des marins qui ont bravé le Cap Horn et qui ont vu des choses absolument horribles, mais il y a aussi ce qu'on appelle des marins en pantoufles. Et c'est vrai que je n'ai jamais vu l'Indonésie, je n'y suis jamais allé, mais ça peut paraître un peu vaniteux, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur, je veux dire, parce que c'est une espèce comme ça, cette idée de se coltiner en fait à la matière, ou de se coltiner à une espèce de défi, de dire ok, aujourd'hui je vais faire croire que voilà, qu'on est vraiment en Indonésie. Et j'ai rencontré une lectrice l'autre jour qui justement avait vécu un peu en Indonésie, qui m'a dit oh, j'ai retrouvé beaucoup de sensations. Et bon, ça c'est vraiment un grand plaisir pour moi, parce que c'est ce travail de faussaire. Vous savez, on emploie beaucoup cette expression amusante depuis, je ne sais pas, une vingtaine d'années, qui nous vient du monde politique, les vraies fausses factures, les vrais faux ceci, les faux vrais. Et j'aime assez bien cette espèce de travail. En Chine, il y a beaucoup de contrefaçons de monnaie, et les gens, dès que vous payez avec un billet de 100 yuan, les gens aussitôt épluchent le truc. Et je suis toujours fasciné par le fait qu'on puisse fabriquer du faux.
Alors l'Indonésie, on va en parler un peu plus longuement, parce que c'est vraiment l'un des deux pôles importants du roman. L'Indonésie, ce n'est pas totalement au hasard que vous avez choisi ce lieu, puisque les liens avec la Hollande sont naturellement forts. Donc je vous laisse peut-être expliquer ça un peu.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que il y a quelque chose qui est absolument fascinant quand on s'intéresse aux Pays-Bas, c'est que il y a d'abord une chose dont on prend conscience quasi immédiatement quand on arrive aux Pays-Bas, c'est l'importance de l'argent dans le rapport à l'argent également dans la mentalité néerlandaise. Il y a un proverbe absolument hallucinant qui dit seul le soleil se lève pour rien. Donc voilà, ça dit bien un peu comment se comportent les gens. Cette habileté, cet entre-gens, ce génie du commerce qu'ont les Néerlandais, c'est quelque chose, quand vous vivez là-bas, vous y trouvez confronté tôt ou tard, et souvent plutôt tôt que tard. L'une des conséquences assez fascinantes de cette dimension mercantile, c'est que les Pays-Bas, qui sont sans doute l'un des pays les plus petits du monde, ont exercé leur domination sur tous les océans du globe pendant pratiquement tout le XVIIe siècle. C'est-à-dire que quand on parle de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, il faut savoir que si on fait un tout petit historique de ces compagnies, les mers ont d'abord été occupées par les Portugais, qui s'en sont trouvés chassés un petit peu progressivement par les Espagnols. Les Anglais sont arrivés pour avoir leur part du morceau, du fromage. Les Français ont commencé sous Henri IV à s'intéresser à tous ces comptoirs d'Orient. Alors les uns étaient à Macao, les autres étaient à Goa, et tout le monde, il y en avait qui allaient plutôt vers le Japon, vers la Chine, etc. Mais le cœur, c'était quand même l'Asie du Sud-Est. Et pendant ce temps-là, il y avait également la compagnie occidentale des Indes hollandaises. Ça veut dire qu'il y avait le même commerce du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui les Antilles, de l'Amérique centrale, etc., etc. Ça veut dire qu'il y avait une organisation. On considère que la Compagnie hollandaise des Indes orientales est la naissance véritable du capitalisme, et que c'est un modèle réduit de toute l'économie moderne. Et tout ça reposait sur une une logistique absolument invraisemblable. Il y avait des armateurs, des banquiers, des compagnies qui préparaient les navires, qui recrutaient les équipages. Il y avait la confrérie des Herren 17, c'est-à-dire c'est les messieurs, les régents un peu, qui était une compagnie constituée de 17 personnalités qui faisaient tourner ce business ultra lucratif pour le pays. Et pour vous montrer aussi cette science du commerce que possédaient les Néerlandais, vous connaissez tous cette fascination qu'avait l'Europe à cette époque-ci pour les porcelaines de Chine. Et en fait, les Néerlandais ont pratiqué un peu une forme de colbertisme, puisque très rapidement, ils ont créé la porcelaine de Delft, en se disant, on va fabriquer chez nous et on va acheter à l'intérieur du pays ce qu'on allait autrefois, ce pourquoi on risquait la vie de milliers de marins, d'équipages et de navires. Mais c'était des milliers de navires qui, chaque année, sillonnaient les mers pour le compte des Provinces Unies. Et encore aujourd'hui, d'immenses fortunes des Pays-Bas sont assises sur les rentes venant de leur famille. La compagnie des Indes orientales a été officialisée en 1602 et les Hollandais ont perdu le monopole juste après la Seconde Guerre mondiale, puisque par exemple mon capitaine est le premier à réouvrir les lignes maritimes entre Amsterdam et Jakarta. Ça se passe en 1949. L'Indonésie vient juste d'obtenir son indépendance, qui a été obtenue grâce au soutien du Japon. Et ce sont les Japonais qui, en 1945, débaptisent Batavia pour lui redonner son ancien nom de Jakarta.
Bon, l'Indonésie toujours. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre personnage féminin, Kusuma, cette femme fleur qu'on a adorée depuis le début et qui est elle-même, qui a une origine, je veux dire, un peu hollandaise aussi?
Oui, complètement. Oui. En fait, Kusuma est la fille d'une Indonésienne et d'un Néerlandais. Ce Néerlandais qui a été un jeune homme est arrivé après avoir terminé ses études aux Pays-Bas lorsqu'il avait 18-20 ans, plutôt une vingtaine d'années, oui. Et en fait, il se rend à Jakarta pour retrouver ses parents et ses oncles qui sont ce qu'on a appelé ces grands seigneurs du thé, ces planteurs, ces maîtres du thé, etc., qui possédaient des plantations, des demeures, des résidences absolument splendides. Le Jakarta de cette époque était une miniature d'Amsterdam ou de Leiden ou de Den Haag ou de Utrecht ou toutes ces grandes villes néerlandaises dans lesquelles on trouve le canal des princes, le canal des seigneurs, le canal des empereurs, etc. Les rues de Jakarta étaient rebaptisées de la même façon. Et il se trouve que ce jeune homme, qui s'appelle Case, donc, ne se reconnaît pas du tout dans cette famille de gens qu'il considère un peu comme des esclavagistes. Il a réagi de manière assez virulente à la lecture d'un chef-d'œuvre de la littérature anticolonialiste qui est ce livre de Multatuli. En fait, c'est un écrivain qui s'appelait Darvus Dekkers, qui a écrit sous le pseudonyme de Multatuli, qui signifie « j'ai beaucoup souffert ». En fait, Darvus Dekkers a été administrateur colonial pour le compte de la compagnie de commerce néerlandaise, et il a fortement contesté ce régime, et c'est notamment grâce à lui que l'esclavage, enfin c'est en conséquence de ses écrits de la fin du 19e que l'esclavage sera aboli en 1931. Donc en fait, mon personnage féminin est déjà un peu atypique parce que c'est une métisse finalement. Elle est déjà le trait d'union entre l'Indonésie et les Pays-Bas, puisqu'elle est la fille d'un père néerlandais, mais qui parle un néerlandais d'un autre temps, puisqu'il n'est plus jamais retourné aux Pays-Bas, et sa maman est donc indonésienne. Et lorsque le capitaine et elle se rencontrent au bureau des douanes, il commence d'abord par parler dans cette langue qu'elle possède à la perfection grâce à son père. Et en fait, c'est vrai que c'était un personnage qui était assez délicat à créer, parce que c'est au début, le projecteur était plutôt centré sur ce capitaine qui est sur ce navire, et mon point d'ancrage principal était plutôt les Pays-Bas. Donc en fait, les Pays-Bas, pays du capitaine, ce capitaine qui quitte les Pays-Bas pour naviguer, pour aller en Indonésie. Et en fait, Kusuma, donc c'est cette femme qui va aimer jusqu'à son dernier jour, était un peu presque comme une figurante au début du roman. Elle ne parlait pas, elle n'avait pas beaucoup de sentiments. Il a vraiment fallu il a fallu la construire, il a fallu lui donner une psychologie féminine qui soit crédible. C'était, pour parler vulgairement, c'était un petit peu casse-gueule cette affaire-là, parce que c'est vrai qu'il fallait que le lecteur, les lecteurs, lectrices puissent avaler, entre guillemets, le fait que ces deux-là s'aiment alors qu'ils sont éternellement séparés et qu'ils vont s'attendre, en fait, toute une vie. Donc,
Ça, c'est le travail du romancier. Nous parlions au début de la présentation un peu des rêves d'enfant, et j'aimerais bien qu'on revienne sur la partie quasiment dramaturgique, sur les rebondissements, l'art de mener une histoire et vraiment de construire une intrigue. Je pense que vous pourriez dire un petit mot de Andrew Zoon, qui est le second du navire, ennemi juré de notre capitaine Barth. Et après, on parlera bien sûr de Rackham le Rouge et du corsaire chevalier de Courtrai.
Alors en fait, Caroline pose une question fondamentale, parce que c'est surtout sur ces... C'est sur, en particulier sur des questions comme celle-ci qu'elle a joué à plein son rôle de directrice littéraire, et j'en profite pour lui rendre publiquement hommage, parce que j'ai trouvé chez elle, en elle, ce que je pensais disparu du monde de l'édition française. Et je pense qu'effectivement, il y a des manuscrits qui arrivent tout prêts, tout cuits, sur lesquels il y a rien à retoucher. Mais il y a aussi des gens, vous savez, je pense qu'un roman, c'est un peu comme pour le chercheur d'or qui sort des pépites qui sont pleines de boue du ruisseau, et puis qui dit, voilà, celle-ci, elle a l'air pas mal, et si on la brosse ou si on la frotte un petit peu, on va réussir à en faire quelque chose de tout à fait utilisable. Et Caroline est une lectrice ultra perspicace, absolument impitoyable. Et c'est vrai qu'elle m'a poussé sur des réécritures qui sont à la fois décourageantes et encourageantes, parce que c'est un peu comme si, je ne sais pas, vous allez à Bordeaux et vous arrivez à Limoges, vous croyez être à Bordeaux, on vous dit oui, tu y es presque, mais bon, il y a encore 120 km, mais bon, il faut les faire à pied, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Et il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas grand-chose à manger, et tous les restaurants sur la route sont fermés. Donc voilà, il faut y croire, et hop, il faut... ce roman s'est construit... je pense qu'il y avait... J'ai obtenu ce qu'on appelle une mission Stendhal pour ce roman, c'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères français m'a donné une bourse d'écriture, une résidence, en fait, qui m'a permis de retourner 2 mois sur les lieux du crime à Amsterdam, et de me remettre un peu dans cet univers. En fait, je pensais que j'y allais pour me documenter, pour voir des chantiers navals ou pour revoir pour la millième fois les canaux, des choses comme ça. Et en fait, dès que je suis arrivé, j'ai été immédiatement en situation d'écriture. Ensuite, j'ai envoyé un an plus tard le manuscrit dans une maison où Caroline travaillait. Et très peu de temps après, on m'a téléphoné pour me dire « On a beaucoup aimé votre roman, mais dans l'état actuel des choses, c'est plus un récit qu'un roman. Et pour que ce soit un roman, il faut un peu plus de rebondissements, des choses un peu plus romanesques. » Et
Andrew Zoon.
Pardon ?
Andrew Zoon.
Voilà. Et donc, il fallait un personnage absolument un salaud, un gros méchant, en fait. Voilà. Et donc, ce personnage qui, au départ, n'existait qu'en étant un nom et qui n'était, en fait, que le second du navire sur lequel Barth s'embarquait à ses 15 ans, est devenu l'un des 4 ou 5 personnages principaux du roman. Et quand je vous disais tout à l'heure que je me considérais comme un guide, vous savez que c'est agaçant quand quand on visite un château, c'est que le guide ouvre les portes de certaines pièces, mais laisse certaines autres fermées. En fait, moi, j'ai fait un peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai construit ce personnage et au moment où on va apprendre des choses complémentaires sur lui, je coupe volontairement le récit pour mieux agacer le lecteur. On repart sur une rupture de temps, une rupture d'espace, on repart dans une autre histoire et les informations vont être divulguées par bribes et il faudra en fait attendre pratiquement la quasi-fin du roman pour que ce personnage qu'on aura successivement rencontré à 4 reprises, je crois, au cours du roman, pour qu'on sache en fait ce qu'il adviendra de sa pauvre personne en fait. En réalité, il incarne un personnage qui va peser sur la destinée de mon héros. Il va incarner une menace. La quatrième de couverture dit que lorsque Bart s'embarque sur le Black Star, il y a une bagarre qui éclate peu de temps après son embarquement avec ce fameux second. Et en fait, il a 15 ans et il va le retrouver au cours d'un certain nombre d'épisodes qui sont assez épicés quand même, on peut dire.
Puis c'est un personnage qu'on peut aussi considérer comme une métaphore de la partie noire, de l'âme sombre du héros lui-même. Donc on peut jouer aussi sur ce dédoublement.
Oui, tout à fait. Oui. Et puis c'est vrai que c'est aussi un personnage un peu caractéristique de ce monde, vraiment ces obscurs et ces sans-gras de la marine, quoi. C'est-à-dire des gens qui toute leur vie vont être de simples matelots. Ou même, là j'explique par exemple que ce fameux Hendrik Hendriksson tire une espèce de gloire auprès du reste de l'équipage parce qu'il a une double ration de cigarettes, il peut voler des bouteilles d'alcool au petit mousse ou lorsqu'il va dans une auberge du port, il y a toujours un patron de taverne qui lui donne des bouteilles d'alcool pour pas qu'il ait envie de tout casser, parce que ce sont des événements qui font que souvent un établissement est obligé de fermer définitivement ses portes. Donc c'est un personnage anguleux, dont détesté absolument de tout le monde, dont tout le monde se méfie, et qui va connaître une fin un peu sordide, bien évidemment.
On n'en dira pas plus. Voilà. Et parlons maintenant du chevalier de Courtrai, qui est l'ancêtre de notre héros, le capitaine, un personnage haut en couleur.
Alors le chevalier de Courtrai, donc, c'est donc cet ancêtre qui a vécu au XVIIe siècle. Donc en fait, Bart, mon capitaine, va très tôt dans le roman développer un début d'amitié avec un historien de la marine dont le prénom est Cornelis, donc qui est un vieux prénom néerlandais du siècle d'or, peut-être même avant. Et ce Cornelis est en train de travailler sur la mise au jour d'un galion de la flotte de la Compagnie des Indes Orientales, et il jubile littéralement parce qu'il a retrouvé des concrétions de poivre sur des fûts de canon, il a retrouvé des morceaux de porcelaine de Chine, et il faut qu'il établisse la datation de tous ces éléments. Et en fait, lui aussi diffère un peu les révélations qu'il va faire. Régulièrement, il rencontre le capitaine et lui dit « Il faudra que vous veniez me voir un de ces jours parce que j'ai des révélations à vous faire sur votre ancêtre. Vous connaissez la ronde de nuit de Rembrandt. Il y a un gaillard là qui tient une espèce de pertuisane dans le convoi en plein à côté du commandant du détachement. Il lui dit, je crois que c'est l'un de vos ancêtres. En fait, il lui dit un peu plus tard qu'il s'est trompé, mais qu'on peut quand même trouver un portrait de son ancêtre au Mauritshuis à La Haye, donc la capitale politique des Pays-Bas. Et en fait, il lui révèle que, en allant fouiller dans les archives de la Compagnie orientale des Indes hollandaises, il lui révèle que son nom est en fait un nom français qui a été néerlandisé. Son ancêtre s'appelait de Courtrai, comme la ville de Courtrai qui est pas loin de Lille. Et en fait, son ancêtre est un protestant qui a dû fuir le royaume de France au moment de la révocation de l'édit de Nantes, donc qui accordait la liberté de culte aux protestants. En fait, les protestants ont eu deux possibilités, soit ils se convertissaient, soit ils quittaient le territoire. Et donc, là, voilà, par exemple, un bon exemple de travail de faussaire. Je dis dans mon roman que c'est Abraham Duquesne, le surintendant de la marine, qui a effectivement été le véritable surintendant de la marine de Louis XIV, qui a été obligé d'aller signifier lui-même ses lettres de cachet au fameux chevalier de Courtrai, en lui disant, en clair, si tu veux pas te convertir, tu dégages, quoi. Et en fait, ce chevalier est parti, et la plupart de nombreux protestants qui ont quitté le royaume à cette époque, partaient vers le nord, vers la Belgique et vers les Pays-Bas, et en particulier arrivaient dans cette province de Zeeland. Et donc, très tôt, ce chevalier a trouvé un autre embarquement, puisqu'il était déjà marin pour le compte de Louis XIV, et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler pour le compte de la compagnie hollandaise des Indes orientales, en étant donc capitaine corsaire, et c'est à la faveur de cette mission particulièrement dangereuse qui s'est trouvé sur la piste donc de Rackham le Rouge. Donc bien évidemment, ce jeu d'ancêtre est aussi un clin d'œil au fameux chevalier de Haddock, qui était l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père du capitaine Haddock. Tout ça réhabillé à la sauce de la Compagnie des Indes orientales, etc. etc.
Quelques mots juste sur Rackham le Rouge, brièvement peut-être.
Alors bon, Rackham le Rouge, bon ben ça c'est. Je suis toujours étonné. J'étais en été avec Caroline il y a 15 jours au salon Étonnant Voyageur de Saint-Malo, et parmi les livres qui étaient sélectionnés pour le prix Jean de Mer, il y avait
dont le vôtre.
Il y avait deux livres de piraterie. Et ce matin, j'étais à Soulac dans la librairie de Corinne, et je feuilletais un ouvrage d'un auteur anglais qui parle de piraterie. Qui vient juste de. Je pense qu'il y a une fascination, en tout cas de la part des ex-petits garçons que certains d'entre nous fument, pour les pirates. Et c'est vrai que dans ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui concerne la facture et le comment dire les coulisses en fait de ce travail de création littéraire, ça me gêne pas forcément de flirter juste un peu ce qu'il faut avec certains clichés, et c'est vrai que j'avais vraiment envie de mettre un pirate, et en mettant Rackham le Rouge qui dans la réalité n'était pas un pirate très 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 courageux, c'était pas le plus intrépide de tous. Il y a eu des pirates qui étaient le Captain Kidd ou le Barbe Noire ou des gens comme ça, étaient des gens particulièrement qui n'avaient peur de rien, qui montaient à l'abordage aussi facilement qu'en buvant un verre de rhum, quoi. Rackham le Rouge était plutôt quelqu'un d'un peu lâche qui prenait les gens quand ils étaient en situation de faiblesse. Il attaquait des navires qui étaient déjà endommagés par des tempêtes, par exemple, des choses comme ça. Donc j'en ai fait une espèce de personnage. Vous savez que les pirates se mettaient du noir à charbon autour des yeux. Rackham le Rouge est une espèce de gravure de mode, quoi. Il a des trucs brillants partout, il a des bagues, il a une barbe, il a des dents qui manquent, il a des pistolets ici avec des têtes de mort sur les chiens, il a des couteaux partout, il a une espèce de cape rouge, des bottes à la mode du début du 17e à bout carré, etc. Enfin, c'est un jeu quelque part, ouais. Mais apparemment, il a l'air d'être assez convaincant quand même.
Oui, oui. Bon, une dernière question. Oui. Le titre, Le capitaine à l'heure des ponts tranquilles, pourquoi ?
Les ponts tranquilles, c'est tout simplement cette heure. Il y a une heure particulière. Amsterdam est une ville fascinante parce que, d'abord, c'est un immense musée à ciel ouvert. On peut remercier le ciel que cette ville n'ait pas été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez peut-être que Rotterdam a subi ce qu'on a appelé un bombardement de terreur. les Néerlandais avaient une politique très pacifiste, et lorsque les Allemands ont envahi les Pays-Bas, l'armée néerlandaise n'avait pratiquement pas un seul char à opposer à l'ennemi, mais pour autant ils ne capitulaient pas. Et Göring est parti avec sa Luftwaffe et il a bombardé en quelques heures un immense périmètre au cœur de Rotterdam, et les Néerlandais ont capitulé le jour même, je crois. Ce qui aurait aussi bien pu se produire à Amsterdam. Donc c'est vrai que quand on aime les matériaux, la brique peinte, Amsterdam est une ville extrêmement polychrome. On est vraiment au cœur du XVIIe siècle, et on peut voir les différentes ceintures d'urbanisme, puisque Amsterdam s'est construite au bord de l'Amstel. Et donc, elle a été construite ensuite, elle a été élargie par canaux concentriques autour du premier canal qui a existé historiquement. Et à tel point que, par exemple, vous avez un canal qui s'appelle le Prinsenhart, qui est le canal des princes. Et lorsqu'au 19e, on a continué à urbaniser la ville, on a construit le Neue Prinsenhart, qui est le nouveau Prinsenhart, comme on a construit le Neue Kaiserhart, qui est le nouveau canal des empereurs, etc., etc. Et on peut déambuler dans ce labyrinthe pendant des jours et des jours, et on voyage à travers les siècles. Il y a une politique de protection de la ville, je veux dire, orchestrée par la ville, par la municipalité, qui est extrêmement dynamique. Le stationnement est extrêmement cher. Les sabots sont extrêmement fréquents sur les voitures qui sont mal stationnées. Donc en fait, il y a très peu de trafic. Il y a un trafic de tram presque aussi bien que celui de Bordeaux. Et en fin de compte, ce qui est assez saisissant, c'est qu'à 10-11 heures du soir, donc cette fameuse heure des ponts tranquilles, je n'ai pas oublié la question, Caroline, il y a un moment comme ça où vous êtes dans le cœur d'une des plus grandes capitales européennes et vous n'entendez pratiquement rien. Vous entendez des quelques foules qui poussent leurs petits cris là avant d'aller dormir sur les canaux. Vous voyez un rat qui traverse. Vous entendez le clapotis et puis au loin vous entendez le tintement de la sonnette du tram. On est déjà dans un exotisme assez fort, quoi. Et c'est vrai que vous entendez vos pas, vous marchez à 10h30 du soir, vous entendez, alors que vous êtes à même pas une minute de marche d'une des plus grandes artères de la ville. Donc, et c'est ce moment où le capitaine, au moment de quitter donc sa ville natale, avec un peu ce sentiment de culpabilité, parce que c'est un marin qui a navigué toute sa vie pour le pavillon de son pays. Donc décide d'aller visiter une dernière fois ses lieux favoris, qui sont bien évidemment mes lieux favoris dans Amsterdam. Et il fait ça donc à cette fameuse heure des ponts tranquilles. Et là, sa décision est prise.
Et c'est l'heure qui déclenche la mémoire et le roman tout entier. Merci beaucoup Gérard pour cette présentation. Je vais enchaîner du coup avec quelques mots sur la collection. Donc le Capitaine à l'heure des ponts tranquilles est le deuxième roman de la collection Les Escales, domaine français. Et je voulais vous présenter un peu plus en détail cette maison. Les Escales ont été créées en 2012 et elles reposaient à l'époque sur deux principes. À la fois la volonté de révéler au public des voix singulières de la littérature étrangère et d'autre part... offrir une forme d'invitation au voyage pour, encore une fois, emporter le lecteur, le faire rêver. Vous avez peut-être lu les romans de l'anglaise Victoria Hislop, notamment L'île des oubliés, qui a été couronnée de succès et qui retraçait en fait la vie des habitants de la petite île de Spinalonga, au large de la Crète, où étaient parqués des lépreux. Voilà, pour vous donner une idée un petit peu de ce qui avait pu être publié par mes collègues du domaine étranger. Et mon pari avec cette nouvelle collection est assez simple. C'était que ces deux éléments, révéler des voix singulières et inviter au voyage, pouvaient être déclinés par des auteurs français et francophones. La notion de voyage, d'ouverture sur l'ailleurs, vous avez vu, hein, est vraiment l'un des piliers de cette collection. L'ouvrage de Gérard Grèveran en est vraiment l'incarnation. Cela vaut aussi pour le nouveau roman de Vincent Engel qui est sorti au mois de mai, Le miroir des illusions, et qui nous transporte entre Venise, San Francisco, le San Francisco du 19e siècle, en passant par Milan et Berlin. Mais c'est également le cas du roman de Diane Pellin, Même les pêcheurs ont le mal de mer, qui sort demain. et qui, lui, retrace la vie de trois hommes, trois pêcheurs de père en fils, sur une petite île au large de la Méditerranée, et qui tous cherchent en fait à s'affranchir d'un destin tout tracé. Ça, c'est le premier aspect, je dirais, l'ouverture sur l'ailleurs. Mais j'ai voulu également décliner ce thème du voyage sous forme de voyage plus intérieur, à travers des romans plus initiatiques ou à travers des odyssées familiales. Et le premier livre de la collection, signé Karl Aderholt, Rouge, était justement une odyssée familiale, puisque ce roman brosse le portrait en fait d'une jeunesse française et plus globalement d'une famille française d'origine allemande tout au long du XXe siècle. L'auteur revient sur son enfance dans une famille communiste de comédiens portés par l'excès, tous les excès possibles et imaginables. Et c'était du coup un voyage aussi dans une époque, la France des années 60-70, et dans un pays qu'on ne connaît plus aujourd'hui. L'autre roman qui illustre la veine du voyage intérieur et qui sortira cette fois-ci à la rentrée littéraire, le 25 août exactement, est un premier roman signé Jérôme Chantreau, qui a pour titre « Avant que naisse la forêt ». L'auteur vit à Biarritz, il est professeur de lettres, et dans sa vie antérieure, il était responsable d'un grand domaine forestier en Mayenne. Et cela a son importance pour le roman, parce qu'il imagine la vie d'un homme, Albert, qui a une quarantaine d'années, qui vit en région parisienne, et qui, suite au décès de sa mère, va retourner dans la grande propriété familiale de Mayenne, encerclée de plusieurs hectares de bois. Il est là pour régler en fait les obsèques, ça devrait durer quelques jours, ça durera toute la vie. Il est seul avec l'urne de sa mère, avec ses souvenirs et avec cette nature à la fois hypnotique et inquiétante. La forêt, c'est vraiment le lieu de l'ambiguïté, c'est à la fois le refuge, le ventre maternel, mais c'est aussi le lieu de tous les dangers, la menace, l'ogre qui est prêt à vous dévorer. Et à la fin, on comprend que ce livre est à la fois une ode à la solitude, à la contemplation et à l'éveil de la part sauvage qui sommeille en chacun de nous. Ces quelques titres que je viens de vous présenter brièvement, parce que je pense que nous n'avons plus beaucoup de temps, constituent l'ensemble en fait de mon programme éditorial de l'année 2016, c'est-à-dire juste 5 romans. Pour vous donner un ordre d'idée, dans la précédente maison où je travaillais, les éditions Jean-Claude Lattès, on était sur 150-200 livres par an. Donc là, c'est vraiment un parti pris pour publier moins, et le slogan, ce serait « publier peu, publier mieux », de prendre le temps vraiment de pouvoir travailler avec les auteurs. Je voulais juste vous donner 2-3 pistes sur la manière dont on procède, parce que c'est vrai que c'est un métier à la fois passionnant et très mystérieux. Parce que comment publie-t-on ? Il y a tout d'abord, évidemment, un gros travail pour sélectionner les manuscrits. Pour vous donner un ordre d'idée, je reçois entre 2 et 10 manuscrits par jour. Pour l'instant, je suis seule. Donc, il faut évidemment trouver des solutions. On fait appel à des lecteurs extérieurs en qui on a totalement confiance, qui nous font des fiches. En fonction de quoi on va lire ou pas le roman en question. Mais généralement, il y a une forme d'évidence, en fait, quand on reçoit un manuscrit. Ça a été le cas pour le roman de Gérard. C'est-à-dire que dès le début, il y a une voix, il y a une plume, il y a une capacité à recréer des atmosphères. Et du coup, on sait qu'on va avoir envie d'entrer dans cette histoire-là. Le travail éditorial constitue la deuxième étape, évidemment, de ce processus. C'est la plus longue, la plus intéressante. C'est-à-dire que l'éditeur n'est pas un imprimeur. Bon, je ne me contente pas de recevoir un texte, de l'envoyer en composition, puis le faire imprimer. Il y a un travail qui peut parfois durer des années, où ensemble, on discute, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des rebondissements, des personnages qui éventuellement ne sont pas assez étoffés, pas assez développés. Il y a un travail parfois juste de lissage stylistique, traquer l'adjectif en trop, l'adverbe qui appesantit inutilement telle phrase. Enfin, tout un travail vraiment qui se fait dans un dialogue pour essayer d'affiner et de tirer le meilleur parti de chaque pièce brute. Vous voulez peut-être dire un mot sur le travail éditorial qu'on a fait ensemble, Gérard, du coup ?
Oui, parfois ce sont simplement des petites annotations. Il y a quelque chose d'absolument... inévitable et assez stupide en fait dans l'écriture, c'est que parfois on écrit des choses en sachant que, que ça n'est pas bon, ou en tout cas que les trois quarts de la phrase sont bons, mais que le mot qu'on met en plus, ou l'espèce de commentaire de la phrase d'avant, se surajoute de manière tout à fait inutile. Et on a beau le savoir, il faut parfois tomber dessus, buter dessus un certain nombre de fois pour dire, bon, allez, celui-là, je l'enlève sans pitié, quoi. Et c'est vrai que, quand je parlais tout à l'heure de l'œil de Caroline, c'est vrai que déjà sur ces éléments-là, c'est vraiment fortifiant en tant qu'auteur de savoir que ça fonctionne un peu comme un filet de sécurité, quoi. On se dit que en l'occurrence, Caroline était là pour me dire, bon, parfois, non, ça, c'est pas la peine, c'est... OK, le lecteur, il a déjà compris, c'est pas la peine de lui dire, t'as vu, c'est triste, hein, il faut sortir le Kleenex. Okay, on dit un truc qui est triste, et c'est pas la peine de vouloir mettre un commentaire sur la tristesse que ça a généré. Mais pour des raisons assez obscures... il faut parfois que ce soit vu par un œil extérieur.
Oui, alors, et du coup, cette remarque répond à une question qu'on me pose souvent sur le métier d'éditeur. Est-ce que les auteurs n'ont pas un égo démesuré? C'est quand même leur bébé, leur œuvre. Est-ce qu'ils acceptent qu'on retouche leur texte? La réponse est oui, parce que l'auteur est intelligent et comprend qu'il peut encore améliorer et aller plus loin et approfondir encore son œuvre. Donc, généralement, ça se passe très bien.
Moi, j'ai été très docile.
Très, très docile.
Non, c'est vrai.
C'est vrai.
Et non seulement j'ai été docile, mais j'ai beaucoup apprécié cette phase. Et alors l'autre élément, parce que je voudrais surtout pas, par mon intervention d'avant, faire penser que le travail de Caroline se réduit à supprimer des bouts de phrases. Mais c'est vrai que Caroline a aussi à la fois cette vision du détail et cette vision de l'architecture global du livre. Et c'est vrai que on dit toujours que quand on écrit, on ajoute, on supprime, on remplace et on déplace. Et c'est vrai que dans Le Capitaine, on a fait du ménage comme ça plusieurs fois. Il y a des choses qui étaient à la page 17 qui sont retrouvées à la page 53, ou des éléments qui étaient un peu trop appuyés dès le départ. À partir du moment où vous partez dans une... C'est un peu comme quand moi je joue de la batterie, par exemple, si vous vous mettez à taper fort dès le départ, vous n'allez pas pouvoir taper de plus en plus fort.
Donc
il vaut mieux taper un peu moins fort et puis faire une espèce de crescendo. Donc là, on a l'architecture pour ça. La dernière remarque, c'est aussi... Caroline a parlé tout à l'heure d'une voix, et c'est vrai que moi, ça a été mon premier... Mon premier objectif lorsque je suis arrivé au cours de cette mission Stendhal et que je me suis mis immédiatement au travail, ça a d'abord été de trouver cette voix du capitaine, son ton. C'est-à-dire, vous connaissez tous le célébrissime dialoguiste Michel Audiard. Audiard disait qu'à partir... Il a eu une chance extraordinaire, c'est qu'assez tôt dans sa carrière, il savait pour qui il écrivait. Il écrivait pour Jean Gabin, il écrivait pour Francis Blanche, il écrivait pour Bernard Blier. Donc évidemment, il était en train d'écrire les trucs, mais il les entendait déjà, quoi. Quand on écrit quelque chose et qu'on se dit il faut trouver une voix, mais il faut que cette voix dure. Parce que lorsque j'étais par exemple en Chine et que je réécrivais des choses ou que j'ajoutais des éléments, je le faisais parfois 6 mois, je faisais une espèce de raccord de ce qui avait été écrit 6 mois plus tôt. Et il fallait immédiatement que je retrouve cette musique, ce ton, quoi. Il fallait pas que ce soit un imitateur ou une doublure.
Alors, une fois que le manuscrit est abouti, on l'envoie en composition, on reçoit des épreuves, qu'on relit, qu'on vérifie, et on donne le sacro-saint bon à tirer à l'imprimeur. C'est ça qui lance les machines. Et après cette partie éditoriale, vient la partie commerciale, et je me tourne vers Catherine Delannoy, qui est notre formidable représentante sud-ouest, et qui nous fait le plaisir d'être là. Merci Catherine. Et qui, défend notre catalogue, le présente auprès des libraires, et travaille avec eux pour soutenir nos titres. Parallèlement, on a bien sûr un travail de communication auprès des médias, donc via une attachée de presse. C'est-à-dire que les auteurs, quand ils sont là, viennent, font des dédicaces, qu'on envoie massivement à absolument tous les journalistes que vous pouvez avoir vous-même croisés dans la presse écrite, à la télévision ou à la radio. C'est long, c'est pénible, c'est difficile, mais il faut absolument le faire parce qu'on a besoin de cette vitrine-là. Et donc ça, c'est un travail qu'on mène vraiment activement. Et on est là, nous aussi, éditeurs, pour susciter la curiosité. Et puis la dernière étape, c'est celle qu'on est en train de vivre ensemble, c'est la rencontre avec les lecteurs. Donc le fait de pouvoir vraiment faire des rencontres dédicaces, des signatures, des conférences, des salons, des festivals, comme Étonnant Voyageur à Saint-Malo, dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.